Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. 50 morts il y a 2 semaines à Christchurch en Nouvelle-Zélande, 1 mort il y a presque 2 ans à Charlottesville, 9 morts à Charleston aux États-Unis également il y a 4 ans, 77 morts à Utøya en 2011. Le bilan des attaques revendiquées ou liées à des défenseurs du suprémacisme blanc est effroyable et très inquiétant. Ces attaques se multiplient, c'est du moins le sentiment que l'on a, et l'on a compris qu'elles ont lieu partout dans le monde. Des groupes qui défendent ces idées existent sur tous les continents. À chaque fois, Christchurch, Utøya ou Charleston, les attaques sont le fait d'individus qui agissent apparemment seuls, mais la récurrence interroge. Suprémacisme blanc, acte isolé ou vrai mouvement, c'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Hervé Lebras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes démographe et historien, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Le sol et le sang, c'est aux éditions de l'Aube, et de Malaise dans l'identité, aux éditions Actes Sud. Et Anaïs Voigilis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique et membre de l'Observatoire européen des extrêmes. On va peut-être d'abord essayer de se mettre d'accord sur les termes de la question. Comment est-ce que vous définiriez, chacun d'entre vous, le suprémacisme blanc ou nationalisme blanc ? Anaïs Voigilis, peut-être à vous de commencer.
Alors, pour le suprémacisme, c'est tout simplement une idéologie qui prône la supériorité des blancs sur toute autre personne non blanche. Par contre, qui dit être suprémacisme, dit souvent qu'on est nationaliste. Mais on peut être nationaliste sans être suprémaciste. Et il est important de différencier les deux choses. On peut vouloir défendre sa nation sans vouloir détruire l'autre.
Hervé Lebras, vous adhérez à cette subtilité, on va dire, parce que vu de l'extérieur, c'est vrai que parfois on a un peu l'impression que tout ça c'est la même chose. Il y a des différences réelles.
Oui, il y a des graduations et je suis tout à fait d'accord parce que le suprématisme passe avant tout par une position raciste, alors que le nationalisme n'est pas forcément une position, y compris même un ultranationalisme n'est pas nécessairement raciste, même si quelquefois il y a un glissement. Mais le suprématisme, il n'y a aucun doute.
Alors l'objectif du suprémacisme blanc, vous l'avez dit Anaïs Voigilis, c'est la domination. Et le nationalisme, c'est simplement la séparation de ce que leurs tenants appellent des races.
Non, pas du tout. Vous pouvez être nationalisme, c'est quelqu'un qui est attaché à sa nation, qui va vouloir défendre sa nation, mais qui ne va pas forcément... Il ne veut pas forcément détruire l'autre. Ce qu'on voit aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant peut-être de revenir sur la genèse des mots, le suprémacisme, c'est aujourd'hui une notion qu'on retrouve particulièrement aux États-Unis, qui est liée à l'histoire et à la construction des États-Unis. Je rappelle que dans la Constitution américaine, puis dans un arrêt de la Cour de justice de 1896, les États-Unis ont institutionnalisé la notion de colonie, de séparation et de ségrégation, avec l'idée que les Blancs dominaient toutes les autres populations américaines, et notamment les indigènes. La France et l'Europe n'a pas cette même histoire. Il y a une tradition colonialiste, mais on n'a pas intégré au sein de l'État l'idée de la supériorité de la population blanche.
Ça n'est pas juridiquement acté dans l'histoire,
acté.
C'est ce que vous voulez dire.
La fin de la ségrégation aux États-Unis, c'est un arrêt de la Cour de justice en 1954, puis une décision politique en 1964. Donc il y a déjà 2 histoires différentes qui permettent de comprendre que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'on retrouve en Europe, c'est plutôt des mouvements ethno-différentialistes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent préserver leur nation, qui rejettent l'autre, qui sont racistes et nationalistes, mais en revanche, qui ne sont pas dans la volonté de détruire. C'est-à-dire chacun chez soi, au nom de la culture, de cultures différentes, au nom d'ethnies différentes. Mmh. Voilà, les différences qu'on peut faire.
Alors, est-ce que et vous avez commencé à répondre à cette question, Anaïs Voigilis, est-ce que le corpus idéologique de ce mouvement est unique, structuré, ou est-ce que ses tenants sur les différents continents vont chercher un peu partout de manière disparate? Comment ça s'organise, Hervé Lebras?
Je suis pas un spécialiste de leur organisation, mais il est en train d'une certaine manière de se mondialiser. C'était intéressant dans l'affaire de Nouvelle-Zélande. Ce type avait séjourné en Europe pendant près d'une année. Il prétend que c'est en France qu'il a trouvé une partie de son inspiration, et aussi dans les pays nordiques. Il se recommandait de Breivik, le tueur norvégien. Actuellement, il y a quand même une certaine fusion qui s'opère, et particulièrement, assez curieusement, les auteurs français sont traduits, notamment aux États-Unis, de façon importante. J'étais frappé par cela. Ils font des tournées de conférences, donc il y a une symbiose qui est en train de s'opérer. Quand on voit, moi je suis plutôt sur des questions comme le grand remplacement, c'est aux États-Unis, ça a vraiment pris pied, et il faut bien voir que on retrouve le sujet de début, c'est-à-dire que le grand remplacement, c'est le glissement de l'idée d'invasion, qui l'idée d'invasion n'est pas forcément raciste. Les Allemands ont envahi la France, etc. L'idée d'une ségrégation raciale. C'est une race qui remplace une autre. Donc on voit les connexions en train de s'opérer à l'échelle mondiale.
Il y a une globalisation de ces idéologies, Anaïs Voigilis ?
Oui et non. En fait, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Pour dire qu'il y a une globalisation du nationalisme sur un angle ethno-différentialiste, des Trump, Bolsonaro au Brésil, tous les mouvements qui commencent à accéder au pouvoir en Europe, la Ligue en Italie, le FPÖ en Autriche, Marine Le Pen qui arrive au deuxième tour des élections présidentielles, même si chez le Front National il y a une stratégie de diabolisation, etc., qui fait qu'aujourd'hui c'est moins marqué. Il y a une coalition là-dessus. Sur le suprémacisme en tant que tel, c'est un mouvement qui est encore une fois très ancien aux États-Unis, hein, des attentats, des actes très violents, des mouvements qui ont voulu créer des communautés séparatistes aux États-Unis existaient déjà dans les années 80.
Dans le Nord-Ouest notamment.
Oui, ouais, c'est ça. Hein, exactement, dans le Nord-Ouest. Donc il y a. Mais de là à parler d'internationalisation, je pense que c'est. Un petit peu compliqué, c'est-à-dire que on est aujourd'hui sur un mélange de toutes sortes de choses et des individus qui se servent de théories pour justifier des actes. Maintenant, on n'est pas. Souvent, on pose la question, est-ce qu'on est sur une organisation aussi structurée que celle du djihad et de l'État islamique ? Absolument pas. Donc, il faut bien mesurer les choses, essayer de comprendre de quoi ressort chaque événement.
Alors, vous avez commencé à en parler. Hervé Lebras, l'auteur des attaques de Christchurch, a publié une sorte de manifeste avant de perpétrer ces massacres. Dans ce manifeste, il va chercher un petit peu partout les théories françaises. Bon, on va les citer, Renaud Camus, Alain de Benoît, ces gens-là. Et puis, il va chercher aussi dans le corpus américain. Il picore un petit peu partout, ces gens-là. Comment ça se passe ?
Oui, moi, ce que je voulais dire, bien sûr, en parlant d'internationalisation, qui c'est pas du tout quelque chose de structuré. Il n'y a pas un mouvement structuré. Et d'ailleurs, les tentatives de rapprochement de groupes ultra sont souvent... aboutissent souvent à des échecs. Il y a une sorte de logique là-dedans, puisqu'ils défendent pratiquement pas forcément la même race, la même. Mais en même temps, il y a une communication de plus en plus grande entre les différentes, les différents, même pas groupes, quelquefois entre simplement des individus qui suivent attentivement ce qui se passe dans le monde et puis qui le prennent en exemple et qui d'ailleurs se réfèrent à ces exemples.
Les idées se diffusent via Internet, Anaïs Voigilis, c'est peut-être une des manières, une des choses qui explique la diffusion.
Il y a une accélération de la diffusion des idées, en tout cas sur Internet. Aujourd'hui, vous pouvez entrer en connexion presque instantanée avec n'importe qui dans le monde qui va partager vos idées, ce qui n'était pas possible avant, puisque Si on va un peu plus loin dans les distinctions et qu'on s'intéresse à, pas seulement à l'extrême droite, mais plutôt à l'ultra droite, les groupuscules violents, on sait que dans les années 70-80, il y avait déjà eu des tentatives d'union, il y avait déjà eu des communications. La seule différence, je pense, avec avant, c'est qu'on a un accès très large à de nombreuses informations, une facilité d'échange, et donc aussi le fait que certaines personnes qui sont un petit peu déséquilibrées se retrouve dans un mouvement où elle trouve plein de gens qui adhèrent à leurs idées, et ce qui facilite aussi le passage à l'acte.
Je pourrais aussi dire par rapport, vous avez mis, c'est pas que je défende ni l'un ni l'autre, dans le même sac, Alain de Benoît et Renaud Camus. C'est vrai. Je crois que là, il y a une grosse différence. Mm-hmm. Alain de Benoît est un idéologue type, je dirais même un idéologue à l'ancienne. C'est un type, je ne partage pas du tout ses thèses, mais qui a quand même une très grande culture. Donc c'est un type qui argumente mm-hmm. véritablement. Avec Renaud Camus, on descend au moins d'un cran, sinon de plusieurs crans. À part l'idée de grand remplacement qui est une sorte de slogan, il est incapable d'articuler une théorie cohérente.
On va en reparler. Comparaison n'est pas raison, et vous avez eu raison de me le dire, Anaïs Voagilis. Mais est-ce qu'on peut parler d'un processus de radicalisation comparable à celui qui est utilisé par l'organisation État islamique, même si c'est pas centralisé de la même manière? Est-ce que les gens qui, vous en parliez vous-même, qui sont peut-être un petit peu limités, se radicalisent tout seuls sur Internet dans leur coin, ça se passe de la même manière?
Enfin, je sais pas si c'est limité. Si on peut dire qu'ils sont limités, en tout cas, on sait qu'Internet a un rôle
fragile. C'est fragile ce que vous avez
dans les processus de radicalisation. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul sur le sujet mm-hmm. pour savoir s'il y a des personnes qui jouent ce rôle d'endoctrineur, comme c'est le cas dans l'organisation du Djihad international. Par contre, et je tiens vraiment à insister là-dessus, je me répète, mais le terrorisme politique, c'est quelque chose d'ancien, hein, qui existait mmh. déjà dans les années 70, 80, 90. Mmh. L'extrême droite a été extrêmement violente, l'ultra-droite aussi. Et il faudrait pas, parce qu'on a le sentiment qu'il y a un affaiblissement du djihad, qu'on se lance dans une nouvelle peur qui serait l'ultra-droite. C'est-à-dire qu'il faut suivre ces mouvements, mmh. mais il faut pas non plus jouer à se faire peur. Parce qu'on a vu ce que ça a produit, hein, de jouer à se faire peur.
Ceci dit,
Il y a quand même, ça m'a frappé d'ailleurs dans le discours même de cet Australien en Nouvelle-Zélande, mm-hmm. il y a un effet miroir quand même. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est quelque part, ils nous font cela, donc on va mm-hmm. leur faire cela. Et ça, c'est assez inquiétant politiquement parce que c'est au fond un modèle, alors là, extraordinairement ancien, c'est le modèle mm-hmm. de la vendetta. C'est-à-dire, on inflige à celui qu'on considère comme son ennemi la même chose que
c'est
ce qu'il vous
talion.
A. C'est la loi du talion. Et la loi du talion et la vendetta, c'est quand même ce qu'on cherchait à éradiquer les États mmh. modernes, c'est-à-dire pas de justice mmh. privée. C'est le retour de la justice privée. Et de ce point de vue-là, beaucoup plus largement, je trouve que, y compris si on va jusqu'à ce qui se passe en France et ce qui se passera peut-être samedi, on retombe sur des tentatives, au fond, de justice plus privée. On vous fait ça parce que vous nous avez fait cela.
C'est un symptôme d'une certaine... Alors là, je pars complètement ailleurs, hein, Anaïs Voagilis, d'un certain affaiblissement des États-nations ou...
Alors oui, affaiblissement des États-nations, c'est-à-dire que les États-nations ont aussi fait le choix de s'affaiblir en Europe, en tout cas en se mettant en confiant une partie de leur souveraineté à une entité supranationale qu'est l'Union européenne. Et de là, ça a créé tout un sentiment les élites ne jouent plus leur rôle en faveur des nationaux, etc. Moi, je pense que pour aller un peu plus loin dans ce que vous disiez, c'est que je crois que la loi du talion qu'on est en train d'observer aujourd'hui, elle est aussi profondément liée aux attentats. C'est-à-dire que les attentats, à mon sens, qu'on a connus ces 3-4 dernières années sur le sol européen, sont venus matérialiser le discours d'extrême droite et ont créé un sentiment d'urgence chez certains groupuscules politiques, avec le sentiment que les nations sont mises en danger, que les élites politiques ne jouent plus leur rôle dans la défense de la nation et que eux doivent le faire parce qu'ils se voient comme le dernier rempart pour préserver leur identité et leur nation.
Hervé Le Braz, vous en avez parlé, on a beaucoup parlé du grand remplacement après cette tuerie de Christchurch. C'est d'ailleurs comme cela que s'intitulait le manifeste du tueur qui se revendique lui-même comme fasciste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
C'est une idée tout à fait simple, c'est l'idée que l'immigration qui est... assez importante, sa conclusion à terme sera le fait que les immigrés seront plus nombreux que les non-immigrés, et donc remplaceront la population immigrée. C'est une extension, je dirais, au fond raciste ou raciale, de la notion d'invasion. Et il y a une chose très importante dans au fond ce basculement de la peur de l'invasion à la peur du grand remplacement, c'est que le grand remplacement nie la possibilité du métissage. Or, pratiquement toutes les immigrations, sauf les forcées comme aux États-Unis par l'esclavage, mais la plupart des immigrations, et surtout dans la France actuelle, je pourrais donner des chiffres là-dessus, se traduisent par un métissage. l'image. Donc il y a bien un remplacement, si on peut dire, grand ou non, en France actuellement, mais c'est le remplacement d'une population qui était, dont les origines étaient relativement proches de la France, par une population beaucoup plus mélangée, mais absolument pas différente des autres. Il faut bien voir que dans les idéologies racistes, bien sûr, il y a l'idée de suprématie, l'idée de domination, mais peut-être le point le plus important, et ça dégobineau, c'est la pureté du sang. C'est ça qui vous marque clairement une théorie raciste.
Quand on parle de théorie, on sous-entend, détrompez-moi si je me trompe, qu'il y a un fondement scientifique. C'est une théorie, le grand remplacement, ou c'est un ressenti ?
Non, c'est pas une théorie. Enfin, c'est ce que je vous dis. Oui. Passer le fait que ça veut dire que passer le fait que très concrètement en France, vous avez depuis mettons une dizaine d'années, en gros, un solde positif de 170 000 étrangers et un solde négatif de 100 000 Français. Donc, il est tentant de dire, ben voilà, ces 170 000 remplacent ces 100 000. Mais ça ne va pas plus loin. Il y a aucune théorie derrière. Et surtout, s'il y avait une théorie, elle serait obligée de prendre en compte le métissage. Et c'est un point vraiment intéressant, le métissage, parce qu'actuellement, à un endroit tout à fait différent, qui est les débuts de Homo sapiens, donc de notre fameuse race, on est en train de s'apercevoir qu'il y a eu un métissage dans tous les sens, non seulement avec Néandertal, mais aussi avec ce qu'on vient de découvrir, avec ce qu'on appelle l'homme de Denisova.
Donc on est bien d'accord, il n'y a pas de fondement scientifique à ces théories différentialistes. Vous avez commencé à en parler, Anaïs Voigilis, ce mouvement est-il organisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place? On a quand même vu des tentatives de Steve Bannon de s'implanter sur le continent européen, d'essayer de fédérer toutes les droites européennes, les ultra-droites européennes.
Enfin, Steve Bannon, c'était pas exactement les ultra-droites qu'il voulait fédérer, c'était
les
surtout
extrêmes droites,
les extrêmes droites. Sur l'ultra droite, ils essayent de se fédérer eux-mêmes, hein, notamment avec la mouvance identitaire qui, à mon avis, à ce jour est la mieux organisée à l'échelle mondiale. Bon, Steve Bannon sur sa tentative d'allier de faire une alliance des extrêmes droites, c'est bien mignon, mais je pense que les Européens ne l'ont pas attendu pour s'allier. Par ailleurs, il y a des divergences terribles au sein de l'extrême droite. Je rappelle l'UKIP, hein, qui a été quand même le leader du mouvement en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ne veut pas travailler avec le Front national. Le Front national n'a pas envie de travailler avec certains partis. Alors certains verraient une grande coalition avec Orban, mais il faut bien se dire qu'Orban se voit un héritier de la démocratie chrétienne et serait plutôt pour fragmenter la droite et le Parti populaire européen que de s'allier avec des nationalistes type de la Ligue ou du Rassemblement national. Donc si une grande coalition existe, ou en tout cas une grande entente, elle est sur la question migratoire aujourd'hui, et elle fait à peu près consensus dans beaucoup de pays, mais sur le reste, il y a des divergences telles qu'il est difficile de voir une grande organisation.
Ce que vous nous dites, c'est Hervé Lebras, vous allez confirmer, je pense que c'est impossible d'organiser une chose pareille.
Oui, on peut l'espérer, mais enfin là, je suis pas prophète. Simplement, même cette question de l'immigration, et là, c'est pas simplement ni l'ultra-droite ni l'extrême-droite, c'est maintenant une grande partie de la droite qui est sur cette ligne anti-immigratoire.
Voire de la gauche.
On le voit en France. Et il y a des hésitations très fortes à gauche. Je suis tout à fait de votre avis.
Et si je peux rebondir juste sur parce qu'on parlait des grands théoriciens de l'extrême droite, en tout cas de la nouvelle droite dans les années 80, ils ont fait tout un travail d'imprégnation idéologique sur certains termes, et notamment l'identité nationale et la préférence nationale, qui ont fini par s'imposer dans le débat et être reprises par la droite dans un premier temps, et aujourd'hui par la gauche. Certains partis de gauche, on ne peut pas faire de généralité.
Il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous diriez que c'est un mouvement, l'ultra-droite ou le suprémacisme ou le nationalisme blanc, est-ce que vous diriez que c'est un mouvement qui grandit, qui se développe, Anaïs Voigilis? Oui, je vous sens dubitatif tous les deux, Hervé Lebras.
Moi qui presque été plus actif dans les années fin 80, début 90, l'imprégnation de l'ultra-droite et l'extrême-droite était déjà très forte. Quand on voit, par exemple, quelque chose comme le Club de l'Horloge, c'était un club de notabilité avec des énarques. Donc je suis pas du tout certain que, même au fond que leur côté gramscien de victoire culturelle soit bien parti.
Merci Hervé Lebras, merci Anaïs Boisgilis d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Hélène Avril. Vous pouvez nous réécouter, et nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.